Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les zones de conflit ne cessent de s'élargir avec des arcs de crise de milliers de kilomètres, de l'Afghanistan à l'Éthiopie, du Mali à la Libye, de la Syrie à l'Ukraine, tensions accrues entre l'OTAN et la Russie, de la Corée du Nord aux îles Senkaku, Diaoyu et Paracels, de la République centrafricaine à la Turquie, sans oublier l'hyperterrorisme fruit d'un islamisme radical longtemps encouragé par les pays occidentaux pour lutter contre l'URSS. La scène internationale est entrée dans un cycle instable de décomposition, recomposition. Si le retour à un mode multipolaire constitue un progrès réel en termes de liberté collective, il multiplie en contrepartie les zones de friction. La réalité contemporaine est celle des rapports de force et des politiques d'accroissement de puissance. Le spectre de la guerre s'est étendu comme peut-être jamais au cours de l'histoire. Pour cette édition en partenariat avec la revue Diplomatie, dont le dernier numéro est consacré au conflit dans le monde, regard sur les principaux risques qui pèsent aujourd'hui sur la paix dans le monde avec nos invités. Par téléphone, Virginie Colombier, professeure à l'Institut universitaire européen de Florence, spécialiste de la Libye. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone également, François Frison-Roche, chercheur au CNRS au sein du laboratoire CERSA de l'Université Paris 2 et ancien directeur du projet français d'aide à la transition du Yémen de 2012 à 2014. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, dont l'un des derniers numéros avait pour titre « L'Indo-Pacifique, un espace stratégique sous tension ». Bonjour.
Bonjour.
Les conflits interétatiques de haute intensité font leur retour. Simultanément, de nouveaux espaces de bataille apparaissent. Militarisation de l'espace, cyberaffrontements, autant de défis inédits auxquels il convient d'ajouter l'apparition de guerres non militaires qui engagent de plus en plus l'ensemble de la société. Quel regard portez-vous, Jérôme Pellistrandi, sur cette situation ? On a le sentiment que les grandes puissances n'hésitent à nouveau plus à prendre le risque de la guerre.
Oui, il y a en cette fin d'année une réelle inquiétude géopolitique. On a le sentiment que les plaques tectoniques, en quelque sorte, sont prêtes à s'affronter avec, comme vous l'avez souligné, le retour du rapport de force. On le voit notamment avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, il y a un vrai souci d'inquiétude. On le voit en Asie avec cette rivalité très forte avec la Chine, mais également sur des théâtres que l'on oublie, mais qui sont une réalité. On peut penser à l'Éthiopie avec le conflit avec la population du Tigré. Bien entendu, le Yémen, la Libye, le Sahel. La semaine prochaine, le président de la République va au Mali. Donc, beaucoup de sources d'inquiétude, alors même que notre opinion publique a d'autres soucis de préoccupation en cette fin d'année 2021.
Qu'est-ce que l'on peut dire, Jérôme Pellistrandi, des raisons de la montée des tensions dans le monde ?
Alors, je crois que, tout d'abord, il y a effectivement, d'une part, une multipolarité, mais une multipolarité qui est conflictuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver des façons ou des méthodes pour avoir des dialogues. On est dans l'affrontement, d'ailleurs on peut le dire quasiment idéologique, par exemple entre les États-Unis et la Chine. On voit aussi la Russie qui veut retrouver son rang de puissance impériale alors qu'elle n'en a pas les moyens économiques et d'autre part, le fait que l'Europe, eh bien, c'est un peu la tête dans le sable, telle l'autruche, ne voyant pas toutes les difficultés qu'il y a autour d'elle. On peut penser au bassin méditerranéen, bien sûr, l'Afrique, le Sahel, l'Afrique du Nord. Et donc, on a toutes ces tensions. Et chacun, finalement, aujourd'hui, joue du rapport de force pour imposer sa volonté en pensant qu'il l'emportera. Soit de manière brutale, soit par, en quelque sorte, indifférence des opinions publiques.
Alors, on va parler, après ça, je passerai la parole, bien sûr, à Virginie Colombier, avec qui on va parler de la Libye, et Françoise Frison-Roche, du Yémen. Est-ce qu'on peut parler de sorte de banalisation de l'utilisation de la force ? Le retrait d'Afghanistan en août dernier sur l'échec de l'engagement militaire américain et de leurs alliés, qui a signé un changement d'approche finalement dans la lutte armée contre le terrorisme et plus généralement peut-être un retournement de la politique occidentale d'intervention suivie depuis 1991. Américains et Européens ne peuvent plus compter sur une supériorité stratégique et tactique leur garantissant une faible prise de risque. Ils ont aussi pris conscience que finalement, en banalisant le recours à la force, est-ce qu'ils n'ont pas inciter d'autres à les suivre dans cette voie, Jérôme Pellistrandi ?
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ce sont les puissances occidentales qui ont conduit la plupart des opérations depuis plusieurs décennies. L'Union soviétique s'étant retirée de l'Afghanistan, et ce qui a accéléré d'ailleurs sa décomposition. Mais je crois, et c'est cela ce qui est le plus inquiétant, c'est que dans le même temps, le modèle démocratique que les puissances occidentales étaient censées promouvoir montre ses faiblesses en quelque sorte. Et on a une véritable interrogation qui est devant nous sur comment défendre le modèle démocratique qui est le nôtre, alors même que d'autres projets politiques, finalement, imposent un rapport de force. On le voit bien notamment avec la Chine, un capitalisme aux ordres d'un parti communiste. Et donc, on a effectivement le fait que les valeurs sur lesquelles nous avions, en quelque sorte, après la chute du mur, voulu porter l'effort en disant la démocratie, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, d'autres systèmes politiques disent « mais ça ne sert à rien ». Et c'est bien ça ce qui est, on peut dire, angoissant pour nous.
Alors, la revue Diplomatie que j'évoquais en début d'émission fait donc un tour du monde des conflits en cette fin d'année 2021. On remarque en Afrique, les conflits ou les crises, vous l'avez évoqué, Jérôme Pellistrandi, sont particulièrement nombreux. La revue évoque les tensions entre l'Algérie et le Maroc, les perspectives compliquées pour 2022 au Sahel, on y reviendra, la crise interminable en République centrafricaine, les problèmes en République démocratique du Congo, en Cameroun, en Éthiopie. On va s'arrêter sur la Libye avec vous, Virginie Colombier. Au jour où nous enregistrions cette émission, jeudi 16 décembre, beaucoup de tensions, des incertitudes concernant le scrutin présidentiel qui devait avoir lieu le 24 décembre prochain. Juste pour rappel, et vous allez développer, depuis 2014, la Libye est divisée en deux autorités rivales et en proie à de multiples affrontements. Après 10 années de chaos, en février 21, un gouvernement de transition mené par le Premier ministre Abdelhamid Beïba laisse entrevoir une sortie de crise. On est apparemment loin de tout cela, à 8 jours très exactement de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 24 décembre prochain et dont il était espéré qu'elle sorte le pays de la crise, Virginie Colombier.
Oui, bon, paradoxalement, l'année 2021 a été beaucoup plus calme que les années précédentes, en particulier sur le plan militaire et sécuritaire. On a un cessez-le-feu qui, sur le terrain, tient depuis globalement octobre 2020. Et donc, la population a un peu pu respirer au cours de l'année qui vient de s'écouler. Depuis le mois de mars, on a également une situation politique qui s'était relativement stabilisée avec la formation d'un gouvernement d'unité nationale qui avait pour objectif et pour mandat de préparer la première élection présidentielle libyenne, pas seulement depuis 2011, mais la première élection présidentielle tout court, et aussi des élections parlementaires. Le problème, c'est que bien que cet objectif ait été fixé comme la grande priorité de l'année et la grande priorité du retour à une forme de stabilité politique, déjà avant l'été, on a pu noter que la situation se bloquait politiquement et que le gouvernement d'Abdelhamid Beïba, qui devait normalement préparer ses élections et qui devait se concentrer sur cet objectif, ne l'a pas fait. Il s'est plutôt concentré sur renforcer son pouvoir, construire ses alliances, acheter d'une certaine manière et coopter des alliés avec la perspective peut-être de rester plus longuement au pouvoir. Et surtout, il n'y a pas eu du tout de capacité de la médiation audusienne aidée des acteurs libyens eux-mêmes de se mettre d'accord sur un cadre légal et sur un cadre constitutionnel qui permettrait de mener ces élections dans de bonnes conditions. Donc maintenant, on est dans une situation où à un peu plus d'une semaine du scrutin qui était prévu, les tensions entre les différentes factions et les différents groupes se sont en train de s'intensifier. L'élection va vraisemblablement devoir être reportée parce que ne serait-ce que la liste finale des candidats pour la présidentielle n'a pas été encore officiellement validée. Et on a une situation sur le terrain qui est également en train de se tendre de manière extrêmement importante sur le plan sécuritaire, en particulier dans la ville de Tripoli, la capitale. Mais on a vu également au cours des derniers jours dans la principale ville du sud, Sebha. Donc les tensions montent et on peut craindre une reprise de la violence et une reprise de l'instabilité.
Alors on parle d'une situation explosive. En tout cas, donc déjà la question qui prévaut aujourd'hui, c'est la durée de l'ajournement du scrutin. Quelques semaines, quelques mois, Virginie Colombier, et les tensions entre les différentes factions, est-ce qu'il faut y lire une volonté de ne pas laisser, alors le terme est la démocratie s'installer en Libye parce que d'aucuns ont intérêt à ce que le chaos perdure.
Bon, pour ce qui concerne le report, tout d'abord, bien que maintenant ça apparaisse clair aux yeux de tout le monde que ces élections n'auront pas lieu le 24 décembre, il n'y a pas eu d'annonce officielle du report. Donc déjà, c'est le premier point. On reste dans une sorte de flou.
Au moment où nous enregistrions cette émission, hein, le jeudi 16 décembre, on est d'accord.
Effectivement, le jeudi 16 décembre. Il n'y a toujours pas eu de report, mais il va vraisemblablement se produire. Et on ne sait pas non plus pour le moment quelle sera la durée de ce report. Ce qui est important ici, c'est que le report apparaît aux yeux de tous les analystes et de tous les observateurs comme une nécessité du fait justement de cette absence de consensus sur les règles du jeu. Mais si report il y a, il faut s'assurer que le report permette de régler certains des problèmes qui sont restés en suspens. Parce qu'un report pour un report, sans avoir une ligne claire sur quelles seront les prochaines étapes et quand les élections pourront avoir lieu, vont simplement rendre la situation encore plus difficile et tendre la situation encore plus. Sur le terrain, comment expliquer en fait cette recrudescence des tensions? Je pense que ça rejoint un peu ce que disait votre premier intervenant. C'est moins en fait peut-être un rejet par les différentes factions de la démocratie ou des élections. C'est plus cette incapacité que l'on note à conduire des dialogues, à construire un consensus autour d'un projet commun. Quand on voit que toute l'année qui s'est écoulée et qui était censée être utilisée pour préparer ces élections n'a pas donné lieu à un accord sur simplement le cadre légal et les règles du jeu pour ces élections, on se rend bien compte qu'il y a un véritable problème et qu'on est dans une logique en fait de simplement de rapport de force parce que les règles du jeu ne sont pas admises par les principales parties et les principales factions. Et du fait de cette absence de cadre qui permet de fixer un projet commun, mais on a toutes les factions qui de plus en plus sont incitées à essayer de peser sur le cours des événements en utilisant la force. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer qu'au cours des derniers jours, la situation est en train de se détériorer de manière extrêmement rapide et très sensible dans un certain nombre de localités en Libye.
On a quelques problèmes avec la liaison de Virginie Colombier, mais elle tient cette liaison. Commentaire, Jérôme Pellistrandi, sur ce que Virginie Colombier vient de dire.
Tout à fait, je partage tout à fait son analyse. Alors, il y a quand même un point qu'il faut noter, parce que même s'il y a une recrudescence de la conflictualité potentielle entre les différents clans et factions, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, ça fait déjà une décennie que la Libye est dans cette situation de crise, et à un moment donné, vous avez aussi un phénomène d'usure des combattants. Et à 20 ans, le fait d'avoir une Kalachnikov vous donne un pouvoir. Bon, et quand vous commencez, entre guillemets, si vous avez survécu, bien sûr, à vieillir, il y a un moment donné où le business, vous allez passer du treillis au costume trois pièces. Bon, alors évidemment, la seule chose, c'est que le costume trois pièces ne veut pas dire que vous devenez d'emblée un démocrate. Mais il y a un moment donné où ça oblige quand même à discuter. Mais on est bien, de toute façon, dans une situation où, même si on arrive à un processus électoral à terme, de toute façon, ce seront, concernant la Libye, toujours des rapports de force. C'est-à-dire, celui qui aura le rapport de force le plus favorable, qui aura la majorité, en quelque sorte. Et c'est bien ça, la difficulté. Donc, pour nous aussi, nous ne devons pas raisonner comme nous le faisons pour nos propres principes de fonctionnement.
Alors, Virginie Colombier, vous le disiez, tension entre les différentes factions. On parlera des ingérences étrangères, ce qui nous permettra de faire le lien avec la question du Yémen. Mais pour juste là poursuivre avec vous, Virginie Colombier, tension entre factions, il n'y avait pas non plus dans les candidats qui ont pu se porter candidats pour le scrutin qui devait avoir lieu le 24 décembre, il n'y avait personne susceptible de faire l'unité de la Libye. Enfin, la Libye aujourd'hui est un pays très, très divisé, très clivé.
Vous mettez l'accent sur un point qui est très important. On a une liste officielle pour l'instant qui n'est pas confirmée, mais qui en tout cas sont les candidats qui se sont déclarés, de plus de 70 personnes. Donc ça, c'est d'abord un reflet de l'extrême fragmentation et du fait qu'il n'y en a pas vraiment de groupe et de parti politique ancré, constitué, au-delà du fait en gros des allégeances individuelles. Donc vous avez beaucoup de personnalités qui se sont présentées un peu à titre individuel avec leur petit groupe de supporters. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette liste de plus de 70 candidats, vous avez aussi plusieurs personnes qui sont des personnalités extrêmement polarisantes et clivantes. Je vais en citer quatre. Saif al-Islam Kadhafi, le fils de Muammar Kadhafi, Khalifa Haftar, le chef de l'armée nationale nationale arabe libyenne, Aguila Saleh, le chef du Parlement basé dans l'Est, et Fathi Bechara, qui est l'ancien premier ministre du gouvernement de Fayez Sarraj, qui est originaire de la ville de Misrata, une sorte de bastion révolutionnaire de 2011. Toutes ces figures-là, et le fait que toutes ces figures jusqu'à présent n'ont pas été empêchées de se présenter à la course à la présidentielle, ont contribué au cours des dernières semaines à une sorte de crispation et de peur que des figures qui sont hautement, absolument inacceptables pour une partie de la population puissent arriver au pouvoir. Par exemple, pour une partie de la population de certaines villes de l'Ouest, l'arrivée de Haftar au pouvoir est impensable. De la même manière, pour une partie de la population, la possibilité de l'ancien ministre de l'Intérieur, Béchara, d'accéder au pouvoir est également impensable. Et donc, cette peur et l'absence de garantie, en fait, que les règles du jeu vont être respectées, provoque aussi une sorte de crispation et de recroquevillement, entre guillemets, des différentes communautés et des différents groupes autour du leader qui apparaît comme le plus capable peut-être de les protéger. Et donc ça a renforcé au cours des trois dernières semaines, c'est quelque chose qui est absolument évident, cette sorte de polarisation autour de figures qui sont hautement contestées et hautement problématiques et absolument incapables de rassembler autour d'elles une population libyenne unie, entre guillemets. Et donc là, c'est aussi un autre point majeur, c'est la personnalité des candidats et la peur, en fait, dans un contexte où les Libyens et les différentes factions perçoivent qu'il n'y a aucune garantie et aucun acteur qui peut leur apporter ces garanties, tant à l'intérieur de la Libye qu'au niveau international. Et je pense que c'est un point très important.
Et on peut rappeler que le fils de l'ancien dictateur Kadhafi avait été condamné à mort lors d'un procès chaotique à Tripoli en 2015 et gracié par le Parlement de Tobrouk et aujourd'hui recherché par la Cour pénale internationale, et le maréchal Haftar, dont, que vous évoquiez aussi, également candidat accusé de crimes de guerre. Une autre région, c'est le Moyen-Orient, bien sûr, là aussi évoqué dans la revue Diplomatie, qui fait un tour du monde des conflits. François Frison-Roche, donc les conflits Moyen-Orient, stabilité précaire en Irak, montée en puissance d'un ordre politique pro-iranien, Syrie, là aussi vers une fragmentation du pays, est-ce qu'elle sera durable ou pas? Le Yémen, le conflit qui dure depuis 7 ans, quelle est la situation sécuritaire sur le terrain en cette fin d'année 2021?
La situation sécuritaire, elle est d'une certaine manière dramatique en fonction de la région où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans la région de Mareb, c'est-à-dire l'endroit où se concentrent les conflits et les bombardements quotidiens de l'aviation saoudienne, évidemment que la situation est dramatique, car je rappelle que la partie nord du Yémen est la plus peuplée, sur environ 35 millions d'habitants, 30 millions habitent au nord, et donc il y a déplacement de population, des réfugiés, des déplacés, bref, la situation est dramatique, car cela fait 7 ans que la guerre a débuté au Yémen, et c'est tant qu'il y a un blocus qui empêche l'arrivée de l'aide alimentaire et humanitaire pour ces populations. Donc on est dans une situation assez terrible, même si, en fonction des régions, bon, à côté d'Hodeïda, il y a eu des combats, mais cela semble se calmer en ce moment. Par contre, dans le sud, il y a des tensions, évidemment, car la stabilité politique n'existe pas, et il y a des attentats régulièrement, car il y a des règlements de compte entre factions rivales, car ne l'oublions pas, le conflit du Yémen, c'est un conflit yéméno-yéménite, un conflit intérieur. Il y a aussi, bien sûr, le conflit régional, car il y a des puissances régionales qui sont en compétition au Yémen. Et évidemment, ces puissances régionales sont plus ou moins soutenues par de grandes puissances, ce qui fait que, évidemment, le conflit du Yémen est dans une situation, non pas de gel, mais de poursuite sous les radars, à bas bruit. On n'entend pas vraiment parler, et pourtant, il s'y passe des choses dramatiques.
Et en 7 ans, la guerre du Yémen aura causé la mort, à ce jour, de 377 000 personnes. 150 000 personnes seraient mortes en raison des combats, et environ 227 000 à cause des conséquences indirectes du conflit. Vous l'évoquiez, famine ou maladie. Et on parle de pire crise humanitaire au monde. On vous retrouve, François Frison-Roche, Virginie Colombier et Jérôme Pellistrandi, après le journal. À tout de suite.
La géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les principaux risques qui pèsent aujourd'hui sur la paix dans le monde. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Virgilie Colombier, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, spécialiste de la Libye. François Frison-Roche, chercheur au CNRS au sein du laboratoire au CERSA de l'Université Paris 2 et ancien directeur du projet français d'aide à la transition du Yémen de 2012 à 2014. Et avec moi en studio, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, dont l'un des derniers numéros avait pour titre « L'Indo-Pacifique, un espace stratégique sous tension ». François Frison-Roche, on a terminé la première partie de l'émission avec vous sur le conflit au Yémen. Je le rappelle, un conflit qui dure depuis 7 ans et qui a fait beaucoup de victimes, directes ou indirectes, par les armes et puis la famine, les maladies. Vous évoquiez un conflit à la fois intérieur et régional dans lequel interfèrent un certain nombre de grandes puissances. Qui a intérêt à ce que la guerre se poursuive aujourd'hui au Yémen, François Frison-Roche?
Oh, il y a plusieurs entités intéressées. Il y a d'abord, j'allais dire, sur le plan intérieur, tous les profiteurs de guerre, d'une économie de guerre, qui ont intérêt à ce que les choses se poursuivent de cette manière, puisque c'est leur intérêt financier. Il y a évidemment ceux qui aussi travaillent sur, j'allais dire, le trafic d'armes, les différents trafics liés à tous les conflits. Et là, évidemment, je ne peux pas vous dire qui est directement intéressé, car il y a manifestement des trafics qui sont organisés pour ravitailler les uns et les autres. Et puis, il y a, j'allais dire, ces puissances régionales qui ont le Yémen un petit peu comme on a un fer au feu. On ne sait pas si on va s'en servir, mais il faut que les braises soient bien rouges et que le fer soit chauffé pour que le moment venu, éventuellement, on puisse utiliser le Yémen dans quelque chose qui, évidemment, dépasse largement l'entière population yéménite. Donc, vous voyez qu'il y a une pluralité d'entités, étatiques ou non, qui sont intéressées à la poursuite de ce conflit.
Alors, pour parler des puissances, on le sait, l'Arabie Saoudite est embourbée dans le conflit. La question qui se pose et qui s'est posée et qui se posera encore peut-être, est-ce que Riyad est allé au Yémen avec l'aval de Washington? Quel est aujourd'hui le positionnement des États-Unis, les marges de manœuvre de Mohamed Ben Salman? Et puis, bien sûr, aussi les Émirats Arabes Unis. François Frison-Roche, quels intérêts ce conflit représente-t-il? Les représente pour Abu Dhabi?
Alors, pour l'Arabie Saoudite, évidemment que l'Arabie Saoudite est intervenue avec certainement l'aval des États-Unis, puisque les États-Unis, au départ, ont fourni une aide stratégique importante à l'Arabie Saoudite, qui pensait régler le problème yéménite comme elle avait pu régler le problème de Bahreïn. Malheureusement, évidemment, le Yémen, c'est pas Bahreïn, et l'Arabie Saoudite s'est trouvée embourbée. Pour faire bref, il faut dire que, alors qu'il y avait des espoirs avec l'arrivée du président Biden, et bien jusqu'à maintenant, et ça fait environ un an et demi qu'il est, disons, au pouvoir, et bien les choses n'avancent vraiment pas, et l'administration Biden a autorisé quand même la vente d'armes supplémentaires à l'Arabie Saoudite. Donc voilà, pour caricaturer un petit peu la situation, on peut dire que les États-Unis, la Grande-Bretagne, et puis disons-le aussi quelque part un peu la France, même si c'est un petit joueur dans ce conflit, eh bien laisse faire Mohamed Ben Salman, car évidemment pour lui c'est un enjeu non seulement intérieur, car s'il devait perdre cette guerre au Yémen, il perdrait la face et là, il serait en situation d'infériorité ou de fragilité sur le plan intérieur. Et puis, il y a sur le plan régional la même chose, c'est que si l'Arabie saoudite, qui est le pilier de la sécurité de la péninsule arabique, devait se retirer piteusement du Yémen, eh bien, cela porterait atteinte à son image de marque. Maintenant, pour les Émirats ont joué la carte du Sud car ils sont intéressés par plutôt la sécurité dans le golfe d'Aden et que le Yémen constituait point d'appui, notamment par un certain nombre de ports maritimes comme Aden ou Mukalla. Mais Ils se sont officiellement retirés, mais officieusement, ils continuent à soutenir ce Conseil de transition du Sud qui est pro-indépendance. Et évidemment, l'Arabie saoudite n'a pas les mêmes intérêts et il y a manifestement des conflits sous-jacents que l'on ne peut pas percevoir ouvertement, mais il y a certainement quelque chose qui se passe entre Abu Dhabi et Riyad, car cette situation ne satisfait ni totalement Riyad, qui ne peut pas faire grand-chose de toute façon, même si le président yéménite, le président Hadi, est toujours réfugié à Riyad, mais c'est quand même les Émirats qui soutiennent les milices tribales de ce Conseil de transition du Sud qui réclament l'indépendance. Donc vous voyez qu'il y a des conflits, même au sein de cette coalition, conflits que l'on a du mal à véritablement évaluer, mais qui existent certainement et qui ne vont pas contribuer à régler la crise yéménite.
Et la rivalité évidemment entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui s'exprime au Yémen, Jérôme Pellistrandi. Alors François Frison-Roche évoquait l'idée que la France était un petit joueur dans le conflit. Pour mémoire, la vente de 80 Rafales aux Émirats arabes unis, dont le contrat a été signé tout récemment à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron à Abu Dhabi, en tout cas dans les Émirats, je ne sais plus si c'était Dubaï ou Abu Dhabi. Voilà, France, petit joueur dans le conflit yéménite.
Oui, concernant le conflit yéménite, M. Frison-Roche a raison, la France n'est pas un des acteurs les plus importants. Ce qui se passe, c'est qu'on est effectivement dans une confrontation extrêmement compliquée, comme cela a été souligné. N'oublions pas, bien sûr, qu'il y a l'Iran derrière aussi. Bien. Donc on est dans cette confrontation. On a en même temps, ne l'oubliez pas, les discussions autour du JCPOA à Vienne, autour du nucléaire iranien. Et avec cet élément fondamental, qu'on le retrouve d'ailleurs tant pour la Libye que pour le Yémen, mais qu'on retrouve dans ces conflits, c'est pour ne pas perdre la face. Mmh. Et c'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire que si l'un des acteurs perd la face, il perd son pouvoir. Et c'est bien ça toute l'ambiguïté. Mmh. On est dans quelque chose qui est très féodal, en quelque sorte, dans lequel ne pas perdre la face l'emporte sur la capacité à dialoguer ou à accepter des compromis. Et en plus, on est sur un théâtre qui est loin des médias. Le Yémen, c'est dramatique, et vous l'avez souligné, hein, des millions de Yéménites dépendent de l'aide humanitaire, mais c'est sous la ligne de flottaison, on n'en parle pas, c'est loin, et donc c'est ça ce qui accroît la dimension dramatique, et bien entendu, qui profite, comme cela a été souligné, aux profiteurs de guerre, parce qu'il y a de l'argent à se faire.
Alors, cette question de perdre la face, est-ce qu'elle se pose aussi, Virginie Colombier, sur le cas libyen? On pense bien sûr à Ankara et Moscou, qui sont parvenus à accroître leur présence, comme elles le font ces dernières années. Il y a aussi cet enjeu sur la Libye, entre Turquie et Russie?
Oui, mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont impliqués. On a effectivement la Turquie et la Russie qui aujourd'hui, au cours des deux, trois dernières années, sont devenus des acteurs absolument principaux et incontournables sur le terrain libyen. Qui a perdu la face ici, c'est plus, je pense, les Occidentaux et en particulier les Européens qui ont démontré qu'à la fois par leurs actions ou par leur inaction, ils n'étaient pas capables d'empêcher la Turquie et la Russie d'occuper l'espace qui les occupe à l'heure actuelle sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique et politique. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le cessez-le-feu dont je parlais tout à l'heure et qui tient jusqu'à ce jour a été certes conclu sous les auspices des Nations Unies, mais a été en grande partie facilité par les Turcs et les Russes, et en particulier par leur capacité à soutenir les deux camps rivaux. La Russie soutient les forces du maréchal Haftar, sont présentes sur le terrain dans le centre et dans le sud de la Libye, à travers en particulier le contrôle de plusieurs bases militaires. Les Turcs, depuis la fin de l'année 2019, ont apporté un soutien majeur aussi au gouvernement de Tripoli, à l'époque de Fayez Sarraj, et également ont une présence maintenant consolidée sur le territoire et également un contrôle direct sur un certain nombre d'installations stratégiques et de bases militaires. Et on est plus dans une situation, je pense, une sorte de statu quo entre Russie et Turquie, qui, d'une certaine manière jusqu'à présent, a permis une relative stabilisation de la situation sécuritaire, a évité une sorte d'escalade et une sorte d'explosion encore plus forte de la situation, en particulier au cours de l'été de 2020. Mais c'est un statu quo qui reste très fragile et qui, malgré tout, pourrait éventuellement évoluer, en particulier en fonction de comment la situation évolue dans les prochains jours autour des enjeux de l'élection présidentielle en particulier.
Alors, les terrains de rivalité sont nombreux entre la Turquie et la Russie. François Frison-Roche, c'est moins le cas. C'est une question. Est-ce moins le cas entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis? Et pour le Yémen, quel facteur, d'après vous, serait favorable à la paix aujourd'hui?
Oh bien, ce serait que, en effet, les puissances occidentales, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU puissent se mettre d'accord pour calmer les velléités guerrières de pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats, et puis du manipulateur régional qui est l'Iran. Je ne crois pas beaucoup à l'implication directe militaire financière et en termes de munitions de l'Iran vis-à-vis des Houthis, mais il n'empêche qu'ils savent instrumentaliser ce conflit pour en tirer un certain nombre de profits politiques. Car évidemment, pour l'Iran, l'essentiel, c'est quand même l'Irak et la Syrie. Le Yémen reste quand même une zone assez éloignée, mais peut évidemment servir les intérêts de l'Iran. Et l'Iran en profite évidemment au détriment, selon moi, des Yéménites, car évidemment, ils soutiennent un système qui ne peut que continuer, persévérer dans sa volonté d'hégémonie. Je parle des Houthis, qui non seulement sont en train de gagner la bataille de Mareb en ce moment, mais ont certainement ensuite l'intention de poursuivre en quelque sorte leur mainmise sur le Yémen. Et là, on aurait affaire à quelque chose, une autre dimension de cette guerre yéménite.
Parce que si Mareb tombe, on peut rappeler que c'est une localité qui se situe au cœur du Yémen, François Frison-Roche. Si Mareb tombe, c'est un tournant stratégique dans le conflit et un échec pour l'Arabie saoudite.
Ah oui, ça sera surtout un échec pour l'Arabie saoudite. Je vous dis ce que je disais en début d'émission, c'est que l'Arabie saoudite continue à bombarder. D'après mes informations, hier ou il y a quelques jours, c'était environ 100 bombardements par jour dans la région de Mareb. L'Arabie saoudite continue à bombarder aussi Sanaa. On se demande d'ailleurs au bout de 7 ans ce qui reste à bombarder. Mais l'Arabie saoudite intervient évidemment pour éviter que Mareb puisse tomber. Et quand je dis Mareb, c'est pas seulement la ville, mais c'est aussi ce gouvernorat énorme du Yémen central. Et évidemment, si Mareb tombait, cela voudrait dire que l'Arabie saoudite a échoué. Et là, c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'image de marque de l'Arabie saoudite, sa crédibilité en tant que puissance. Parce que quand même, quand on voit la différence énorme qu'il y a entre le matériel militaire de l'Arabie saoudite et puis des rebelles qui ont quelques kalachnikovs du côté houthi, on peut se poser des questions sur justement ce conflit. L'Arabie saoudite n'y arrive pas et elle n'y arrivera certainement pas parce qu'elle n'a jamais voulu aller sur le terrain. Et donc les troupes yéménites fidèles au président Hadi, réfugié à Riyad, qui sont dans la région de Mareb, n'y arrivent pas parce que, évidemment, ces gens-là sont aussi démotivés vu la déliquescence du pouvoir actuel yéménite.
Alors, on va reparler de la Libye, mais François Frison-Roche vient d'évoquer un aspect très important de conflit au Yémen. Jérôme Pellistrandi, c'est la question des conflits asymétriques. Le parallèle avec l'Afghanistan, il est là?
Oui, alors je ne partage pas tout à fait l'avis de M. Frison-Roche parce que quand on regarde l'armement des rebelles houthis, alors effectivement, ils n'ont pas d'aviation. Mais sur le plan de l'armement terrestre, ils ont atteint un niveau... On n'est pas dans une totale dissymétrie, mais c'est exactement comme ce qui se passait en Afghanistan. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré du matériel blindé pris sur les troupes yéménites. Et comme en Afghanistan, les talibans étaient équipés à l'américaine. Et donc, je constate que les rebelles houthis ont atteint, sur le plan tactique et sur le plan de la mobilité terrestre, un degré effectivement extrêmement élevé. Et bien entendu, avec un élément qui est très important, c'est qu'ils ont cette motivation que n'ont pas les troupes loyalistes. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, intéressant, le mot est peut-être pas adéquat. C'est de voir qu'il y a une forme de rapprochement au niveau terrestre avec le fait que l'Arabie saoudite, eh bien... elle a l'outil aérien qui permet de frapper au sol.
Alors, la question du matériel récupéré, Virginie Colombier, c'est aussi un aspect important du conflit à la fois intérieur, régional et entre grandes puissances. Je pense à la Libye. Et on va élargir peut-être au contexte régional, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Virginie Colombier.
Oui, enfin, en termes de matériel récupéré, la France a eu une mauvaise expérience sur ce terrain-là, puisque un certain nombre d'équipements assez avancés ont été retrouvés aux mains de Haftar et qui visiblement avaient été fournis par la France. Mais je pense que plus largement, ce qui est important, c'est qu'en dépit de l'embargo sur les armes qui officiellement est toujours en vigueur, on a une situation où les armes continuent à arriver sur le terrain libyen. À la fois en soutien aux forces de Haftar, en soutien aux différents groupes qui sont plus ou moins directement et clairement affiliés au gouvernement de Tripoli. Et c'est quelque chose qui contribue à rendre la situation instable et qui rejoint ce que l'un de vos intervenants disait tout à l'heure, à savoir qu'il y a un certain nombre d'acteurs à la fois sur le plan intérieur mais aussi sur le plan international qui profitent de cette situation de conflit, qui en profitent très directement par le biais justement du trafic d'armes et de toutes les sortes de trafics différents qui sont à la fois en termes d'êtres humains, de marchandises, de drogue. Et la Libye, sur ce plan-là, est un terrain particulièrement propice. Et il y a effectivement, et pour cette raison, beaucoup d'acteurs qui ont intérêt à ce que finalement le conflit se poursuive. L'absence d'une autorité capable de contrôler le territoire, des zones de vide et une situation où le crime profite. Et il faudrait peut-être ajouter simplement la question des acteurs armés étrangers, des mercenaires, parce qu'on a parlé de la Russie et de la Turquie beaucoup. Il ne faut pas oublier que les forces turques qui sont sur le territoire sont en partie des forces officielles du gouvernement turc. Il y a aussi des mercenaires en soutien à ces forces-là. Du côté russe, on n'a pas de présence officielle militaire russe. Et l'intervention russe se fait par le biais de mercenaires de la compagnie privée Wagner, pour faire rapidement, et aussi un certain nombre de mercenaires qui, pour beaucoup, sont des acteurs armés qui appartiennent à des forces d'opposition armée des pays voisins, en particulier Soudan et Tchad. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Plus que les armes en tant que telles qui circulent, c'est le risque et les inquiétudes et les points d'interrogation que fait peser cette présence importante d'acteurs militaires étrangers sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et comment est-ce qu'on peut inclure cette question-là dans un règlement du conflit libyen? C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un point essentiel, mais sur lequel on n'a pas beaucoup avancé.
Alors, bien sûr, il y aurait eu d'autres terrains de conflit que nous aurions pu évoquer. C'était notre choix dans Géopolitique de faire un focus sur la Libye et le Yémen. Merci à chacun. Virginie Colombier, vous étiez avec nous par téléphone et pardon pour la qualité parfois un petit peu défaillante de la liaison téléphonique, mais en tout cas, vous étiez bien présente. Professeure à l'Institut universitaire européen de Florence et spécialiste de la Libye. Merci aussi à François Frison-Roche, chercheur au CNRS au sein du laboratoire CERSA de l'Université Paris 2 et ancien directeur du projet français d'aide à la transition du Yémen de 2012 à 2014. Et avec moi en studio, le général Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, dont l'un des derniers numéros avait pour titre « L'Indo-Pacifique, un espace stratégique sous tension ». Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Besset. Demain, nous parlerons de la Chine. À demain.